Le journal, Josette Sédou.
Bonjour, un rebondissement dans le dossier de la tour de Mauron. Le ministère public a annoncé avoir clôturé le dossier pour définir le responsable et qui était responsable de l'effondrement des marches en 2022 et surtout renvoyer l'ultime prévenu devant la justice, le président du conseil de fondation qui sera avec nous en direct tout de suite. La situation est préoccupante pour les enfants qui attendent d'être placés. Plusieurs médias font état de dispositifs sous tension. Certains cantons doivent héberger temporairement des enfants dans des services pédiatriques d'hôpitaux. On fait un état des lieux dans la région. 665 millions de francs, c'est la valeur économique estimée de la Super League de football. Ce chiffre a bondi en 10 ans. On entendra les raisons de cette hausse tout de suite. Puis météo, une atmosphère toujours nébuleuse. Il faut s'attendre à quelques flocons encore. La limite pluie-neige est à 500 mètres. Cet après-midi, retour vers un temps sec. La tour de Mauron fait parler d'elle cette semaine depuis les marches qui a défiguré cette tour en juin 2022. On a appris lundi soir que la reconstruction avançait. Alors, hasard du calendrier, le volet judiciaire vient de faire un pas, selon les informations du quotidien jurassien. Dans l'instruction pour trouver un responsable à ce désastre, le ministère public a informé hier les parties qu'il entendait clôturer l'affaire, mais surtout renvoyer l'ultime prévenu devant la justice. L'ultime prévenu, c'est Henri Simon, le président du conseil de fondation de la tour de Mauron. Henri Simon, bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous réagi à la nouvelle du ministère public ?
Ah ben c'était une bonne surprise. Hein. Ça fait 42 mois qu'on attend que quelque chose se passe au niveau du ministère public. Je dois dire que pendant ces 42 mois, ça a été le quasi-silence radio. La Fondation n'a jamais pu s'exprimer et poser des questions, demander des enquêtes pour faire dévoiler la vérité.
Vous dites une surprise, qu'est-ce que ça vous fait d'être le dernier prévenu dans cette affaire ?
Alors, pour remettre les choses au point, je suis prévenu en ce qui concerne l'entretien de la tour. Pour ce qui est de la construction, il y a d'une part prescription, et le rapport des experts stipule bien qu'il n'y a eu aucune erreur faite dans la construction ni dans le choix des matériaux. Si les escaliers se sont effondrés, c'est non pas parce qu'il y a eu quelques petites fissures, mais parce que le matériau était déficient.
Vous avez affirmé vouloir vous défendre. Quelle nouvelle preuve est-ce que vous souhaitez faire administrer ?
Alors, je défends bien sûr l'honneur de ceux qui font partie de la fondation, en tout cas quelques-uns, et surtout le père de la tour, Théo Geyser, qui ne supportait pas, et je pense que cela lui a été fatal, que l'on pense qu'on avait construit la tour en sachant que le matériel était déficient. Et il y a un fait qui s'est passé, qui, s'il est instruit, démontrera bien que nous n'étions pas au courant qu'on recevait la pierre de mauvaise qualité. Je dirais, pour dans la région, je comparerais au fait que nous avons commandé et payé une montre en or massif et nous avons reçu une montre plaquée or qui était belle de l'extérieur, mais pourrie à l'intérieur avec un mauvais mouvement.
Il y a presque 20 ans, vous avez constaté des fissures dans la pierre. Pourquoi n'avoir pas agi à ce moment-là ?
Pour la bonne et simple raison que c'est quelques fissures qu'on a constatées qui représentent le 5 pour 1000 du matériel reçu sur le chantier. Nous les avions prévues également avec une pierre d'excellente qualité. Ça aurait été une erreur de notre part si dans notre projet nous n'avions pas prévu un système constructif qui faisait que ces pierres, si elles se fendaient, restaient en place, ne bougeaient pas d'un millimètre et nous avions la possibilité de les réparer, ce que nous avons fait. Les réparations que nous avons faites tiennent encore toujours.
Espérer aujourd'hui de cette affaire ?
Alors, l'issue que j'attends depuis 32 mois, c'est simplement qu'on comprenne que nous avons réparé ces fissures en toute bonne conscience, en pensant que notre pierre était impeccable, et ce n'est qu'au deuxième effondrement que je me suis aperçu que des barres métalliques avaient été mises dans ses marches, ce qui fait que celui qui les a mis savait bien que la pierre n'était pas bonne. Et derrière Notre-Dame a eu lieu en 2002 un essai de pierre avec des barres de renforcement. Et c'est cet essai que j'aimerais qu'il soit instruit et qu'on sache qui a fait cet essai, qui était présent et pourquoi on ne nous l'a pas signalé.
Et on le rappelle, l'affaire est en cours. Henri Simon, merci. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de fondation de la tour de Mauron. Concernant le futur de la tour, on le rappelle, le projet avance. Des marches métalliques sont au programme pour la reconstruction. C'est à la halle des maçons que sera construite dès la semaine prochaine la base en béton imitant la tour sur laquelle seront fixées les marches de test. Ce modèle sera ensuite exposé à Malrec pour que la population puisse voir le jour. Henri Simon, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Les dispositifs de placement d'enfants sont sous tension. Plusieurs médias rapportent une situation préoccupante. Certains cantons comme Vaud ou Genève en arrivent même à héberger temporairement des enfants dans des services pédiatriques d'hôpitaux, faute de mieux. Alors qu'en est-il dans la région? Nous avons posé la question au président de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, Cédric Maschietto.
Dans le canton de Berne, je dirais que la thématique du placement en milieu stationnaire est maîtrisée. J'ai pu lire dans les différents médias justement que Neuchâtel faisait des appels à des familles d'accueil, que le canton de Genève aussi estime un important besoin. Dans le canton de Berne, la thématique est actuelle, mais depuis plusieurs années. Elle a été concrétisée, respectivement spécialisée en 2022 avec une modification législative, une centralisation des prestations de surveillance et d'accompagnement des familles d'accueil. Tout est centralisé auprès de l'Office des mineurs qui délègue pour la région la surveillance et l'accompagnement des familles d'accueil à un seul service social, alors qu'à l'époque, jusqu'en 2023, il y avait chaque service social de la région était compétent pour s'occuper des familles d'accueil de son giron. Et actuellement, depuis le 1er janvier 2024, ce n'est plus le cas. Du coup, on a une offre qui est maîtrisée en ce sens que l'Office des mineurs supervise, analyse le besoin et agit si nécessaire.
Les raisons de ces saturations s'expliquent aussi par une complexification des cas. Ils font état de profils d'enfants de plus en plus délicats avec des cas de TDAH, soit troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais aussi de troubles autistiques ou encore de traumatismes. Pour le directeur de la maison d'accueil des petites familles à Grandval, ces enfants nécessitent un encadrement spécialisé. On écoute Nathan Henny.
L'accompagnement de ce type d'enfance, c'est encore un autre domaine. C'est quelque chose de beaucoup plus particulier. Alors, le TDAH, pas forcément ça. On a pas mal à faire dans nos structures quand même. Mais après, par exemple, les troubles autistiques ou comme ça, c'est des structures spécialisées qui s'occupent de ces enfants-là. Ça, c'est différent. Mais nous, c'est effectivement des troubles du genre TDAH. Mais ça, c'est après à nous de contacter les spécialistes avec le réseau autour de l'enfant pour pouvoir optimiser au mieux l'accompagnement.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation à moyen et long terme?
C'est de pouvoir créer des prestations qui permettraient de pouvoir placer ces enfants et puis d'avoir surtout une garantie financière derrière, sans qu'on ait le risque budgétaire élevé, notamment pour les petites structures comme les petites familles, par exemple.
Un dossier de Diana D'Acosta et Manon Becker. La Super League de football a une valeur économique importante. C'est ce que montre une étude de la Haute École de Lucerne et du bureau de conseil EBS. Les résultats ont été présentés ce matin à Berne par la Swiss Football League qui a commandé l'étude. La saison 2024-2025 de Super League a généré une valeur économique de 665 millions de francs, une hausse de 47% par rapport à la dernière évaluation il y a 10 ans. Une évolution fulgurante qui s'explique surtout par la hausse du nombre de spectateurs. Les explications de Claudius Schäfer, directeur général de la Swiss Football League.
Je crois que le foot est vraiment devenu un produit énormément intéressant pour les spectateurs, pour aller voir les matchs en live. C'est aussi la qualité du jeu qui s'est améliorée. Il faut aussi dire, avant on a eu 10 clubs, maintenant on a 12 clubs. Et à la fin, c'est ça. C'est très attractif, probablement le sport le plus attractif en Suisse. Et les gens y vont dans les stades.
Par contre, on voit une grande différence hein, entre les clubs. Ça dépend de quoi? Ça dépend du classement du club?
Vous voyez, ça se... Surtout aussi les stades. On a des grands stades comme à Bâle, à Berne. Ils sont souvent presque pleins, aussi à Saint-Gall. En Suisse-Romandie, on travaille encore un peu. On aura encore plus de personnes dans les stades. On connaît la situation de Genève où peut-être le stade est un peu trop grand. Lausanne, là, il y a aussi, tous les années, il y a plus de gens dans les stades. Et surtout à Sion, où ça avait vraiment aussi une très grande augmentation.
L'étude s'intéresse aussi à la valeur économique de la Challenge League, qui représente environ 10% de la valeur de la Super League. Ce potentiel économique profite avant tout aux régions qui abritent les clubs. Le climat économique s'améliore en Suisse après l'accord douanier avec les États-Unis. Le baromètre UBS-CFA, publié aujourd'hui, a connu une spectaculaire remontée le mois dernier. Il a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année. L'indice a progressé de 19,9 points pour atteindre 12,2 points. Le baromètre table sur une nette amélioration de la dynamique des exportations lors des 6 prochains mois. Et puis le géant américain de l'informatique HP prévoit la suppression de 4000 à 6000 postes d'ici à la fin 2028 en lien avec l'intelligence artificielle. La mesure annoncée hier pourrait représenter jusqu'à un peu plus de 10% des effectifs du groupe. C'est l'une des premières fois qu'une grosse entreprise fait publiquement un lien direct entre des réductions de personnel et la mise en place de l'intelligence artificielle.
Il est 12h26, Josette Sédou, allons prendre des nouvelles des sportifs et sportives.
RJB Sport.
Le HC Tramelan peut se rapprocher de la tête. Ce soir, en première ligue de hockey sur glace, les hockeyeurs Tramelan se déplacent à Sastal à 20h15. Les Valaisans 7e recevront les Tramelan qui peuvent revenir à 3 points du leader Martigny en cas de victoire. Et puis une 5e victoire pour les curleurs suisses au championnat d'Europe. Ce matin, ils ont battu le Danemark 9-3 en Finlande. Un 5e succès en 7 matchs. Le quatuor du CC Genève, composé de Pablo Lacha-Couchepin, Sven Michel, Benoît Schwartz, Van Berkel et du skip Yannick Schwaller doit encore affronter l'Italie ce soir et la Norvège demain. Ils devront sans doute remporter ces deux parties pour espérer diffuser les demi-finales. Merci de nous avoir suivis. Belle journée à vous.
RJB Sport.